Voilà, commençons à demander à l'Esprit Saint de nous aider à comprendre en profondeur ce qu'il veut nous dire ce matin. Merci Seigneur pour ce premier temps de culte où nos cœurs t'ont exalté. Oui, sois le roi, sois le Seigneur dans nos vies, Seigneur. Nous te bénissons de ce que dimanche après dimanche nous pouvons nous réunir pour écouter ta parole. Nous te bénissons de ce que cette parole a traversé les siècles et nous est parvenue. Nous te bénissons parce que, sans en être conscient, Seigneur, bien souvent, c'est par ton Saint-Esprit que nous pouvons l'aimer, cette parole, et surtout la mettre en pratique. Alors ce matin encore, Seigneur, nous te demandons ton aide. Oui, Esprit Saint, viens nous rencontrer, viens nous remplir de façon à ce que nous comprenions ce que tu veux nous dire, ce que tu veux dire à chacun d'entre nous ce matin. Amen.
Amen.
Je vais vous lire deux textes assez courts dans l'épître, la première épître de Pierre. La première, c'est dans 1 Pierre 4. Les versets 12 à 19. 1 Pierre 4, versets 12 à 19. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étranger. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et le deuxième texte, c'est dans 1 Pierre, au chapitre précédent, chapitre 3, les versets 13 à 18. Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce que les hommes craignent et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Le verset central que je retiens dans cette méditation, c'est « Sanctifier Christ comme étant le Seigneur ». Vous le savez sans doute, sous l'Empire romain à partir du 1er siècle, c'est-à-dire à l'époque à laquelle l'Épître de Pierre a été écrite, les chrétiens très minoritaires et immergés dans une société païenne, ont commencé à être persécutés. Tout le monde a appris les persécutions de Néron, autour des années 54. On a une preuve de cette persécution dans le premier texte que je vous ai lu. Je vous répète donc deux phrases. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous écrivez, comme si vous arrivait quelque chose d'étranger. » Le deuxième verset, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » C'est pas facile, hein ? Vous êtes heureux. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ. Donc, ici, il s'agit de chrétiens qui vivaient dans les provinces romaines d'Asie mineure, c'est-à-dire à peu près de la Turquie, actuellement. Aujourd'hui, selon l'organisation Portes Ouvertes, 150 millions de chrétiens sont gravement persécutés dans au moins 50 pays, essentiellement des pays musulmans, bouddhistes, hindouistes ou athées. Et leur situation est identique, voire pire, que celle des destinataires de cette lettre de Pierre. Qu'en est-il en Europe et en France ? C'est vrai qu'on ne peut pas encore parler de persécution des chrétiens au sens propre du terme. Et pourtant, depuis plus d'une décennie, certaines églises évangéliques subissent des tracasseries administratives, des discriminations qui, sous couvert de la lutte contre les sectes, reflètent vraiment un climat d'intolérance vis-à-vis des chrétiens et des valeurs chrétiennes de ce pays. Le projet de loi du mariage pour tous a révélé au grand jour une animosité et une violence verbale contre les positions chrétiennes. On s'en souvient, il n'y a pas tellement longtemps. Mais si cette situation est relativement récente en Europe et en France, elle n'a rien de surprenant dans un pays qui se sécularise de plus en plus. Qu'est-ce que c'est que la sécularisation ? C'est l'adoption de valeurs laïques, les valeurs véhiculées par le siècle présent en rupture avec l'Écriture. Plus nombreux sont les gens qui adoptent ces valeurs, plus la société se sécularise et plus cette société et ses lois s'éloignent des valeurs chrétiennes. Et on a vraiment l'impression que ce phénomène semble s'accélérer. Dans un débat public, aujourd'hui, il faut du courage pour dire que toutes les religions ne se valent pas, que les musulmans n'ont pas le même Dieu que les chrétiens, que le Dieu de la Bible est un Dieu juste et bon. Il faut du courage aujourd'hui pour défendre la chasteté avant le mariage, la fidélité dans le couple. Il faut du courage pour dénoncer le recours à l'avortement comme moyen de contraception, l'homosexualité comme expression normale de l'amour, le mariage des homosexuels, l'adoption des enfants par des couples de même sexe, la consommation de drogues dites douces, les débordements de la publicité commerciale qui s'emparent des symboles chrétiens en les dénaturant. Je pense à ce tableau qui représentait la scène où le Christ était une femme. Ou bien les pièces de théâtre qui mettent à mal ce qu'il y a de plus sacré dans la foi chrétienne. Il faut du courage pour dénoncer cela. Dans ce contexte d'une société qui s'écarte des valeurs chrétiennes jusque dans des lois votées par les gouvernements, jusqu'où sommes-nous disposés à marcher à contre-courant ? Quelle est notre priorité ? Notre priorité ? Nous couler dans le moule de la société et adopter ses idées pour vivre en paix ? Ou bien vivre dans la vérité et la justice telles que nous l'enseigne la Bible ? Vivre en paix, avec la société, c'est facile. Il suffit d'adopter les valeurs du monde. Par contre, vivre dans la vérité et la justice de l'Évangile, cela réclame d'agir en conformité avec l'Évangile et sans craindre les critiques, les moqueries, les oppositions systématiques et peut-être un jour les persécutions. Jésus a dit « L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Jean 15, verset 20. Sommes-nous prêts à souffrir longtemps pour la justice et la vérité et à considérer que ces souffrances-là sont le lot normal du chrétien qui veut rester fidèle à l'Écriture? Sommes-nous prêts à nous réjouir de participer aux souffrances du Christ, comme on l'a lu dans ce texte? Les temps de sécularisation et de persécution au sens large sont des mises à l'épreuve de notre foi chrétienne. Ils révèlent la profondeur de notre foi. Ils révèlent sur quelle fondation notre foi est construite. En effet, aucun homme n'est prêt à souffrir pour une cause qui n'a pas ou peu d'importance à ses yeux. Si sa tranquillité, ses intérêts matériels, sa famille sont menacés, il ralliera vite le courant majoritaire pour avoir la paix, pour avoir une promotion dans son travail, pour ne pas être rejeté par le groupe dans lequel il évolue. Ce n'est pas du tout ce que Jésus a enseigné. Je cite Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Pour persévérer à marcher sur le chemin étroit, quelles que soient les oppositions et les tracasseries que l'on rencontre, il faut avoir trouvé Jésus-Christ. Il faut avoir compris qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Pour ne pas avoir peur de ce que peuvent nous faire les hommes lorsque nous voulons suivre le sentier de la justice et de la vérité, il faut suivre Christ, qui est allé jusqu'au bout du don de soi, à la croix, et croire ce qu'il a dit à ses disciples avant de remonter vers le Père. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Pour garder la foi malgré les persécutions, il faut que le Christ occupe la première place dans notre cœur. Je cite « Ne craignez pas ce que craignent les hommes et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » C'est-à-dire, agissez comme quelqu'un qui reconnaît que Christ est son Seigneur. Est-ce que nous avons bien compris la notion de Seigneur? Christ Sauveur et Christ Seigneur sont deux choses différentes, bien que complémentaires et indissociables. Christ est notre Sauveur parce qu'il est mort sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Par sa résurrection et sa mort et sa résurrection, il nous a sauvés de la mort spirituelle. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui se contenteraient d'avoir un sauveur. Mais Christ est aussi notre Seigneur. Celui qui a donné sa vie à la croix pour nous sauver, l'Écriture dit de lui, je cite, « Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9, 11. Jésus le Sauveur, c'est celui que l'on remercie pour le salut qu'il nous a acquis gratuitement. Jésus le Seigneur, c'est celui à qui on consacre librement et totalement sa vie et à qui on obéit par amour et par reconnaissance tous les jours de sa vie. Lorsqu'un chrétien connaît le Christ comme son Sauveur et son Seigneur, l'espérance qu'il place en lui, c'est-à-dire la certitude du salut et de la vie éternelle, la certitude que rien ne pourra le séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, comme le dit l'apôtre Paul en Romains 8. Cette espérance-certitude lui permet de supporter la persécution et de témoigner avec douceur de cette espérance qu'il place en Christ quand on critique sa façon de penser ou de vivre. Je cite: soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Dans une société de plus en plus sécularisée comme la nôtre, les comportements chrétiens, les discours et prises de position chrétiens sont souvent perçus comme des provocations et des jugements. Ils déclenchent souvent des animosités de la part des non-croyants parce que, comme le dit Hébreux 4:13, personne ne peut rester neutre lorsqu'il est placé devant la parole de Dieu qui est juge des sentiments et des pensées du cœur. Dans les pays musulmans, bouddhistes ou hindouistes, dans les sociétés sécularisées, les chrétiens connaissent déjà ce phénomène de rejet. En France, si la tendance de la sécularisation ne s'inverse pas, les chrétiens connaîtront sans doute un jour le même phénomène de rejet, beaucoup plus amplifié qu'aujourd'hui. Il y a quelques mois, on a déjà eu un échantillon de ce rejet de la part de certains partisans du mariage pour tous, des critiques virulentes et même des menaces de mort contre l'association Torrent de Vie, une association qui vient en aide aux homosexuels qui veulent guérir de leur orientation sexuelle. Pour conclure, je voudrais dire la chose suivante. Ce texte de Pierre n'est pas fait pour que nous nous complaisions dans un esprit de martyr ou de futur martyr. Il veut simplement nous faire prendre conscience des conséquences d'une situation dans laquelle les chrétiens sont minoritaires. Quelles sont ces conséquences? Ils peuvent s'attendre à souffrir un jour à cause de leur fidélité à Christ. Et pour que cette épreuve ne les conduise pas au reniement, l'apôtre nous montre la clé de la persévérance dans la persécution. Je cite pour la troisième fois ce verset: dans votre cœur, pour ajouter dans votre vie, consacrez le Christ comme Seigneur. Et je souligne, pas seulement comme Sauveur, mais aussi comme Seigneur. Le but du chrétien n'est pas de se préparer à la persécution. Son but, c'est de consacrer chaque jour le Christ comme son Seigneur Et si la persécution devait s'intensifier un jour? Alors, oui, nous serions armés pour ne pas craindre les hommes, comme dit le texte, et pour ne pas renier notre foi.